Voilà, bien, bonsoir à chacun, à ceux que je n'ai pas encore salués, et je me réjouis de participer, de contribuer activement à ce lancement de la saison 2 du culte du soir. Voilà. C'est une vraie bénédiction. J'ai un peu l'impression que ça résonne, j'ai l'impression d'intervenir dans la cathédrale de Notre-Dame. Est-ce que David, tu peux faire quelque chose, ou il n'y a que moi que ça entend, qui entend que ça résonne? Non, je vois tourner les boutons, bref. Bref, allons-y. Bah, écoutez, pour cette période de rentrée, j'ai choisi de faire simple. C'est-à-dire que j'ai choisi un thème où nous avons tous, chacun, à progresser et personne dans cette salle peut se vanter d'être au top sur le thème que nous allons aborder ce matin. Enfin, ce matin. J'imagine que tous les prédicateurs vous l'ont fait à peu près, non ? Ouais. Voilà, donc on va parler, enchaînons, de la prière. Et la prière, c'est un pilier majeur de notre vie de chrétien, notre vie de foi. Et pourtant, c'est un pilier que l'on néglige souvent. Et même les disciples ont posé la question à Jésus, eh bien, enseigne-nous à prier. Comment on fait pour prier? Et c'est la réponse qu'a fait Jésus, justement, aux disciples, eh bien, que nous allons voir ce soir. Et même si c'est dans Luc où les disciples posent cette question à Jésus, enseigne-nous à prier, eh bien, je vous propose de lire la réponse de Jésus dans Matthieu 6, verset 1-21. Oui, tu peux, voilà. Prière mode d'emploi. Et je vous propose donc de lire les 21 premiers versets du chapitre 6. Gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent. Pardon. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père céleste. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton don se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra lui-même ouvertement. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Et je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret, eh bien, te le rendra ouvertement. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier, notre Père céleste. Que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. En effet, ils présentent un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes. Mais à ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mites et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où les mites et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Voilà, c'est quelques versets qui sont puissants, qui sont forts, et ces versets sont extraits, si je puis dire, font partie de ce que l'on appelle le sermon sur la montagne. Et le sermon sur la montagne, eh bien, il y a trois chapitres. Il y a le chapitre 5, le chapitre 6, le chapitre 7, et donc là on est bien au cœur du sermon sur la montagne. Le sermon commence par le premier verset donc, du chapitre 5. « À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner. » Et se termine avec les derniers versets du chapitre 7. « Quand Jésus eut fini de prononcer ces paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non comme leurs spécialistes de la loi. » Et entre ces deux versets, eh bien, Jésus aborde de nombreux sujets. Et cet enseignement est particulièrement instructif pour nous parce que Jésus enseignait directement ses disciples. Donc la parole de Jésus est particulièrement de poids ici et instructive pour nous. J'ai lu dans les commentaires que Jésus n'avait pas forcément prononcé ses paroles de manière regroupée, mais que Matthieu aurait tout à fait pu regrouper différents discours de Jésus de manière à pouvoir les unifier dans la mesure où il y a une unité de thème, et cette unité de thème est justement la disposition de cœur du chrétien, le comportement du chrétien. D'ailleurs, j'espère que Jésus n'a pas dit tout d'un bloc, parce que ça aurait pu être sans doute très indigeste pour ceux qui l'écoutaient, parce qu'il y a vraiment des choses profondes, fortes, et tout ingurgité d'un coup, ça aurait été sans doute assez lourd. Donc, imaginons la scène, Jésus est sur la montagne et il enseigne ses disciples. Il est sur une colline près de Capernaum, voilà, c'est à peu près comme ça, avec la mer de Galilée au fond, un cadre très sympa. Et il commence par les béatitudes, vous savez, heureux ceux qui, etc., début du chapitre 5. Puis il leur dit qu'ils sont le sel de la terre et la lumière du monde. Il enseigne ensuite sur la loi, il enseigne sur la colère, où il dit qu'il vaut mieux d'abord se réconcilier avec son frère avant de venir porter son offrande. Il enseigne sur la convoitise, où il dit que si ton œil te pousse à la convoitise, il vaut mieux l'arracher et le jeter loin de toi. Il enseigne sur l'engagement, en disant que votre oui soit oui. Il aborde la question de la vengeance, où il demande de tendre la joue gauche si on est giflé sur la joue droite. Il aborde l'amour des ennemis. Enfin, vous voyez, tous ces thèmes sont c'est du lourd, si je puis dire, là, que dit Jésus. Et ensuite arrive le chapitre 6. Et au chapitre 6, on a plusieurs thèmes. Il y a le thème de la prière, et le thème de la prière est encadré par deux thèmes, qui est comment donner le don, et ensuite le thème du jeûne. Et ça me paraissait important, avant de rentrer dans le vif du sujet de la prière, comme modèle que Jésus nous a donné, de regarder un peu ce qui est dit de manière, avec une vision un peu hélicoptère, sur ces trois sujets, le don, la prière et le jeûne. Et sur ces trois sujets, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux points communs. Et ces deux points communs, je vous propose qu'on les regarde avant justement de rentrer pleinement dans la prière. Et ce premier point commun, je l'ai intitulé de cette manière-là, c'est-à-dire « l'important est ce qui ne se voit pas ». Et je reprends trois versets, je relis trois versets qui s'affichent là derrière moi, devant vous. « Mets-toi », verset 3, « mets-toi quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite ». Verset 6, « Mets-toi quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret ». Et au verset 17, « Mets-toi quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes ». Et ce que l'on donne, nos prières, la pratique du jeûne, ne concerne pas les hommes, mais Dieu uniquement. Et il me semble que ces trois pratiques, le don, la prière et le jeûne, sont le reflet de la relation que l'on a avec Dieu. Donner, c'est montrer que nous ne sommes pas propriétaires de nos biens, mais que Dieu nous a confié des biens et que nous les rendons quelque part. Prier, c'est enrichir la relation avec Dieu, c'est cultiver notre intimité avec le Seigneur, c'est mieux le connaître. Le jeûne pour nous, il est plus difficile à appréhender parce que c'est moins dans nos habitudes, dans nos pratiques. Mais au temps de Jésus, les Juifs étaient habitués à jeûner, et plusieurs fois dans l'année, ils étaient invités justement à jeûner, et les motifs étaient des motifs de repentance, de rechercher la volonté de Dieu, ou d'exprimer aussi une souffrance. Jeûner, c'est montrer que notre relation est plus importante qu'un besoin aussi fondamental que celui de se nourrir. Jeûner, c'est remplacer le temps de repas par un temps spirituel. Et le don, la prière ou le jeûne, sont trois façons d'exprimer notre reconnaissance et notre dépendance à Dieu. Et ça concerne que Dieu et moi. Ils sont l'expression de ma foi et me poussent à me tourner vers Dieu pour lui exprimer ma reconnaissance, le louer, lui dire merci, lui exprimer mes besoins et le mettre, d'une manière générale, à la première place. Et notre relation à Dieu, se cultive dans la discrétion, dans l'intimité, là où il n'y a que Dieu et moi. Et dans notre vie chrétienne, cultiver notre relation à Dieu est ce qu'il y a de plus important. Et finalement, c'est pour ça que j'ai donné ce titre à cette sous-partie, si je puis dire, que l'important dans notre vie chrétienne est ce qui ne se voit pas. Et vous avez remarqué que dans ces trois commandements, ces trois commandements commencent par « mets-toi ». Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus, eh bien, il avait une foule devant lui, il parlait à ses disciples. Donc il aurait pu tout à fait dire « mais vous ». Non, c'est vraiment un enseignement personnel. Il dit à ses disciples « mais toi ». Parce qu'au fond, c'est vraiment un enseignement personnel et on cultive comme ça notre relation personnelle avec Dieu. Et il est tout à fait possible de montrer des signes extérieurs comme quoi, eh bien, avec Dieu, tout va bien. De montrer qu'on a une bonne relation avec Dieu. Mais si ce n'est que de la surface, eh bien, bien sûr, c'est un mensonge. Et que les autres, les personnes qui m'entourent, ne se rendent pas compte que c'est qu'un mensonge. Mais toi, tu sais. Mais Dieu sait quelle est la qualité de la relation que vous avez entre Dieu et toi, si je puis dire. L'important est ce qui ne se voit pas. Et peu importe ce que font les autres, toi, eh bien, voilà comment tu dois faire. Alors, les exemples que prend Jésus, enfin, les situations que prend Jésus, le don, la prière et puis le jeûne, eh bien, ne nous parlent pas forcément autant qu'ils ont parlé, je crois, aux chrétiens, enfin, aux juifs là, qui étaient face à Jésus. Parce que notre contexte sociétal a bien sûr changé et nous, on a perdu le fait. Enfin, on a perdu l'idée selon laquelle, eh bien, de pratiquer le jeûne, de faire des dons en public, de prier en public aussi, eh bien, nous faisait passer les personnes qui faisaient cela pour des gens bien. Hein, finalement, les Juifs qui faisaient ça avaient montré une image positive d'eux-mêmes. Et nous, on a perdu cette idée-là parce que si on se met à prier dans la rue, tout le monde s'en fiche, quoi. Si je jeûne ou que je fasse 5 repas par jour, tout le monde s'en fiche aussi. Mais pour les Juifs de l'époque, eh bien, montrer qu'ils faisaient ces pratiques-là, qu'ils pratiquaient cela, eh bien, c'était passer pour quelqu'un et pour des gens bien. Alors je me suis lancé dans une sorte d'actualisation. Alors une actualisation, ça vaut ce qu'elle vaut, mais voilà ce que ça pourrait donner. Les hommes aiment avoir un salaire élevé pour montrer qu'ils sont importants. Mais toi, si tu gagnes beaucoup, c'est pour donner beaucoup. Les hommes aiment avoir un profil sur les réseaux sociaux pour montrer à quel point ils ont une vie formidable. Mais toi, tes loisirs, tu les consacreras à me servir. Les hommes aiment avoir de grandes maisons pour leur confort, mais aussi montrer eh bien, qu'ils sont importants. Mais toi, tu la mettras à la disposition de l'Église. Et voyez, avec ces exemples-là, on perçoit le côté un peu plus gênant des choses, parce que ça nous bouscule dans nos pratiques. Parce que ces pensées, là, dans ces 3 actualisations, sont à rebours, si je puis dire, de la culture du monde, de la pensée du monde. Et bien sûr, on est tous influencés par la pensée du monde. Cela pose la question de notre intention, en fait. Quelle est l'intention que nous mettons derrière nos actions? L'intention que nous mettons derrière nos engagements? Est-ce que nous sommes tournés vers Dieu ou est-ce qu'on est tourné vers les hommes? Est-ce qu'on est dans la publicité, le fait de rendre public ou de la discrétion? Et notre époque est à la communication, à l'affichage, au selfie, au faire savoir plus qu'au savoir-faire. Et nous sommes dans notre relation à Dieu appelés à la discrétion. Car notre relation à Dieu, eh bien, se développe dans l'intimité de notre cœur. Et Dieu seul connaît la sincérité de notre cœur. Et l'important est ce qui ne se voit pas. Deuxième point commun entre ces 3 enseignements, eh bien, est que la récompense vient de Dieu. Et dans les 3 cas, que ce soit le don, la prière ou le jeûne, eh bien, s'il y a une récompense à avoir, la récompense doit venir de Dieu. Et je reprends 3 versets aussi. Verset 4, « Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra lui-même ouvertement à propos du don. » Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement à propos de la prière. Et au verset 18, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et ça, à propos du jeûne. Et vous voyez, Jésus oppose la récompense qui vient des hommes de la récompense qui vient de Dieu. Et lorsque l'on fait les choses publiquement, eh bien, notre récompense vient des hommes parce qu'on bénéficie d'un regard positif sur nous. On bénéficie d'une bonne image. On est des gens bien. Et c'est ça la récompense, notre récompense quand on fait les choses, quand on s'engage pour les hommes et pas pour Dieu. Lorsque nos actions de service ou ce que l'on fait pour le Seigneur eh bien, se font dans la discrétion, dans les lieux secrets, eh bien, notre récompense vient de Dieu parce que Dieu seul sait. Si jamais je mettais une enveloppe avec 10 000 euros dans la collecte tout à l'heure, avec 10 000 euros en liquide, de manière à ce que l'on ne sache pas que c'est moi qui les ai donnés, il n'y aurait pas une petite voix qui me dirait « mais quand même, c'est dommage que les autres ne soient pas au courant ». Que ce soit moi qui donne. C'est dommage que les autres ne soient pas au courant que je suis généreux et que j'ai les moyens de donner 10 000 euros. voyez comment ça peut se jouer? Quelle est notre intention? Qu'est-ce qui nous donne de la valeur au fond? Est-ce que c'est le regard des hommes ou est-ce que c'est le regard des dieux, le regard de Dieu? Quelle est ma motivation à servir? Et ça peut aussi se jouer sur les petites choses. Quelle serait ma motivation, par exemple, à ramasser un papier par terre dans la salle de culte? Est-ce que c'est pour avoir une salle propre ou c'est pour que les personnes me voient ramasser le papier par terre? Voyez, quelle est ma motivation au fond? Et je lis un passage d'un livre dont le titre est « Radicalement ordinaire ». Le titre, c'est « Radicalement ordinaire ». Et c'est un livre dont je vous conseille la lecture. Et l'auteur est anonyme parce que, justement, il a voulu rester dans l'ombre et pas se mettre en avant. En d'autres termes, nous trouvons notre valeur lorsque nous jouons un rôle dans le grand scénario de l'histoire du monde. Et quand nous trouvons notre valeur en Christ, nous pouvons nous satisfaire d'un rôle secondaire ou même d'être un simple figurant. Avoir un premier rôle perd toute son importance quand nous comprenons la chance que nous avons de simplement faire partie du casting. Et je relis le dernier verset aussi que l'on a lu tout à l'heure, dans Matthieu 6, verset 21. « Amassez-vous des trésors dans le ciel, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Agir dans la discrétion est une conséquence de la nature de notre motivation. Servir Dieu plutôt que de se servir. Et lorsque l'on agit dans la discrétion, eh bien on amasse des trésors dans le ciel. Et la nature de ces trésors est simple, c'est enrichir notre relation avec Dieu, c'est connaître Dieu, connaître le Créateur. Et ça, c'est un sacré trésor. Alors je vous propose maintenant de nous attaquer au modèle de prière. Et d'abord, Jésus donne un conseil de forme avant de rentrer dans le fond de la prière. Et il dit au verset 7 et 8, « Ne multipliez pas les paroles, votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Ne multipliez pas les paroles. Et il dit également que Dieu n'a pas besoin que l'on formule nos besoins et il les connaît déjà, avant qu'on les dise. Et cette formule peut paraître un peu bizarre parce que si je prends ce que dit Jésus au pied de la lettre, au fond, je n'ai besoin que de prier une fois pour un sujet, voire je n'ai même pas besoin de prier puisque de toute façon, il connaît mes besoins avant que je les formule. Et bien sûr, ce n'est pas le sens de ces paroles parce que d'une manière générale, Jésus nous encourage à lui remettre nos besoins, lui exprimer nos besoins et puis à persévérer dans la prière. Mais en disant cela, Jésus nous dit, en fait, ne pensez pas que c'est parce que vous ferez quelque chose de particulier que Dieu vous répondra. Ce n'est pas en faisant des efforts sur la forme de la prière que vous serez exaucé, comme multiplier les paroles, faire des supplications ou faire de jolies phrases, des belles phrases. Ce n'est pas ce qui compte. Si nous sommes exaucés, ce n'est pas parce que nous nous exprimons d'une manière particulière, mais parce que Dieu nous fait grâce, parce que Dieu est bon. Il nous fait la grâce de répondre à nos prières, et quelle que soit leur forme. Ce n'est pas la manière dont nous demandons qui est importante, ni même le sujet, et Dieu le connaît déjà. Ce qui est important, c'est notre attitude de cœur. En demandant avec sincérité, avec simplicité de cœur, en demandant avec foi, nous reconnaissons notre dépendance à Dieu. Par exemple, en priant avant le repas, nous reconnaissons notre dépendance à Dieu pour des choses aussi simples et matérielles que notre nourriture. C'est vrai, il connaît tous nos besoins, mais lui exprimer nous aide à nous souvenir que tout vient de lui. Et nous reconnaissons comme ça notre dépendance. Alors je vous propose d'attaquer la prière, si je puis dire, proprement parler, au verset 9. « Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. » Notre Père céleste. Et je trouve que la formule, notre Père céleste, est intéressante. Parce que c'est à la fois notre Père, avec ce que ça veut dire de proximité, et il est dans les cieux, avec ce que ça peut vouloir dire de distance et de grandeur. C'est à la fois l'intimité et aussi l'immensité. Et ça nous rappelle au fond à qui on s'adresse quand on s'adresse à Dieu. Et je crois que nous avons cet équilibre-là à trouver entre la proximité du Père et la grandeur de Dieu. Et veillons à garder en tête justement ces deux dimensions, sans transformer la proximité en familiarité, ni la distance en inaccessibilité. Et le modèle de prière que nous donne Jésus commence par mettre Dieu en premier. Que la sainteté de ton nom soit respectée. Que notre prière respecte le nom de Dieu. Ça veut dire que nous devons nous souvenir que Dieu est parfait et que ses lois sont parfaites. Et il serait totalement inaccessible, Dieu, si Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, sa résurrection, ne nous avait pas ouvert un chemin, justement, vers lui. Lorsque j'étais enfant, c'est mon grand-père qui m'a appris à prier. Et lui, il vouvoyait Dieu dans ses prières. Et donc, quand j'étais enfant, bah, je faisais pareil. Et quand je me suis converti, eh bien, je me suis passé au tutoiement. Et le tutoiement est une bonne chose, ça exprime la proximité que l'on a avec Dieu. Mais encore une fois, que cette proximité ne se transforme pas en familiarité, parce que eh bien, nous nous adressons à Dieu, et il est créateur de toutes choses. Au verset 10, je prends un peu de retard, voilà, au verset 10, « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Et rien que cette parole eh bien, discrédite un certain nombre de nos prières. Vous savez, les prières qui commencent par « Seigneur, fais que », etc. Hein, et on peut facilement terminer la phrase. Parce que lorsque l'on formule des prières de ce type-là, « Seigneur, fais que », finalement, c'est moi que je place au centre de la relation, plutôt que Dieu. Et nous oublions qu'il est Dieu, nous oublions le côté céleste. Alors, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, prions que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Et ça devrait être au fond la priorité de nos prières, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Et Jésus lui-même a donné cet exemple dans le jardin de Gethsémané, ce qui lui permettait justement qu'on dise de lui qu'il s'exprimait avec autorité. Oui, dans le jardin, il a dit, Matthieu 26, verset 39, « Mon Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de toi, s'éloigne de moi, pardon. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. » Et c'est une prière très différente que « Seigneur, fais en sorte que ta volonté soit faite. » Que ton règne vienne. Et nous voyons souvent cette phrase comme une prière qui, pour hâter, si je puis dire, le retour de Jésus. Et c'est vrai, c'est juste. Mais je crois qu'il y a d'autres dimensions aussi, pour d'autres façons de comprendre cette phrase-là. Quel est l'endroit sur la terre où aujourd'hui, eh bien, la volonté de Dieu peut s'accomplir? Quel est l'endroit principal? Eh bien, c'est notre cœur, je crois. C'est mon cœur, c'est mes pensées. Et la volonté de Dieu peut s'exprimer en nous. Et finalement, ce verset devrait être un préalable à toutes nos prières. Que tu règnes en moi et que je fasse ta volonté. Que ma prière soit conforme à ta volonté. Prier une prière du type « Seigneur, aide-moi à trouver un logement » est une prière tout à fait légitime. On exprime un besoin au Seigneur et ce qu'il demande de faire. « Seigneur, fais que je puisse avoir cet appartement. » Ça, on ne s'adresse pas à Dieu, là. On s'adresse plutôt au Père Noël, vous voyez. Et j'ai conscience d'être un peu provocateur en disant ça. Mais c'est important que l'on prenne garde, que l'on fasse attention à la manière dont on formule nos prières. Que ta volonté soit faite d'abord. Qui n'empêche pas d'exprimer nos besoins. Mais le Seigneur est plein de ressources et nous, nos ressources sont plutôt limitées. Que ton règne vienne peut aussi avoir une troisième et dernière compréhension. Que de plus en plus de personnes connaissent Dieu. Et le règne de Dieu est arrivé sur terre en la personne de Jésus-Christ. Et prions qu'il soit reconnu comme tel par plus en plus de monde sur la terre. La traduction littérale de « sur la terre comme au ciel » est « comme au ciel, ainsi sur la terre ». Et le ciel symbolise le royaume de Dieu pleinement réalisé, pleinement accompli. Et la prière signifie qu'il en soit sur la terre comme au ciel. Alors ne nous lassons pas de prier justement qu'il en soit sur la terre comme au ciel, parce que la route est longue pour que ce soit vraiment le cas. Donc il y a finalement trois niveaux de compréhension de ce verset. Que tu règnes dans mon cœur, Seigneur, règne dans mon cœur, que ta volonté se fasse dans mon cœur, que de plus en plus de personnes reconnaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur, et que Christ revienne pour que son royaume eh bien, s'accomplisse pleinement. Poursuivons, verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alors là, c'est le retour sur terre, hein, si je puis dire. Et on passe de sujet très spirituel à un sujet très matériel, la nourriture et nos estomacs, même si c'est important, hein, surtout en France. Mais vous avez vu toutes les étapes qui précèdent cette demande très précise. La prière commence par la louange et ensuite, eh bien, on en vient aux besoins concrets, aux besoins matériels. Et finalement, ça met bien Dieu à sa place. Les versets qui précèdent, eh bien, s'adressent au côté céleste de Dieu. Et là, eh bien, ce verset s'adresse au cœur de Père de Dieu qui pourvoit à nos besoins, qui répond à nos besoins. Et c'est aussi une façon de nous rappeler eh bien, que c'est Dieu qui répond à nos besoins, qui subvient à nos besoins. Son cœur de Père s'intéresse à des choses aussi simples que la nourriture, que l'eau, que un toit, que les vêtements. Son cœur de Père s'intéresse à ce que l'on soit, eh bien, nos besoins soient satisfaits. Et ça, c'est quelque chose que l'on oublie complètement dans une société de surabondance. Nous oublions eh bien, que tout ça, tout ce que l'on peut manger, par exemple, notre toit, nos vêtements, eh bien, tout ça nous vient de Dieu. et on discerne plus la main de Dieu dans la réponse à nos besoins quotidiens. Le mot grec traduit ici par « quotidien » pourrait être également traduit par « du jour » ou « du lendemain », mais aussi par « nécessaire ». Et on pourrait comprendre ce verset par « donne-nous aujourd'hui, enfin donne-nous le pain dont nous avons besoin ». Et ça fait penser à un court passage, de deux versets dans Proverbes, le livre des Proverbes, Proverbes 30, versets 8 et 9. « Ne me donne ni pauvreté ni richesse, mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Sinon, je risquerais, une fois rassasié, de te renier et de dire « Qui est l'Éternel ?» ou après avoir tout perdu, de voler et de m'en prendre au nom de Dieu. Donne-nous, Seigneur, ce dont nous avons besoin, ni plus ni moins. Et si c'est le cas, eh bien, si nous avons ce dont nous avons besoin, eh bien, ayons un cœur reconnaissant. Et je m'arrête rapidement, brièvement, sur le mot « aujourd'hui ». De quoi avons-nous besoin aujourd'hui ? C'est aujourd'hui que nous avons faim, et on peut le décliner dans nos autres besoins. Nous faisons parfois du souci pour le lendemain, pour la semaine suivante, pour le mois suivant, etc. Et on se projette. Non, la prière nous dit « donne-nous, Seigneur, le pain pour aujourd'hui ». Prions pour nos besoins du jour. Verset 12. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ça, c'est un verset qui est terrible pour nous. Alors d'abord, je voudrais dire ce dont il n'est pas question ici. Il n'est pas question du mur qui existait entre moi et Dieu, du mur de péché qui existait entre moi et Dieu, qui m'empêchait de rentrer dans sa présence. Quand je me suis converti, quand j'ai donné mon cœur à Dieu et que j'ai compris que Christ était mort pour moi sur la croix, eh bien ce mur de péché a volé en éclats et je peux maintenant avoir une relation personnelle avec le Père. Et ça, rien ne pourra me l'enlever. Et je n'ai rien d'autre à faire, j'ai rien eu d'autre à faire que lui demander pardon une fois pour toutes et de devenir son disciple. Mais là, ce n'est pas de ce pardon-là dont il est question. Parce qu'une fois qu'on s'est converti, eh bien, très souvent, par nos paroles, nos actions, nos pensées, eh bien, nous pouvons offenser Dieu. Et c'est dans ces offenses-là que nous devons demander pardon à Dieu. Et là, le texte est assez clair. Dieu conditionne son pardon à la manière dont nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ça nous laisse réfléchir. Dieu nous pardonne de la manière dont nous pardonnons. Et d'ailleurs, il enfonce le clou, si je puis dire, au verset 14 et 15 de chapitre 6. « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Vous voyez, il le reprend un peu plus loin dans le passage. Et puis deux autres versets aussi que je voudrais lire, qui insistent sur cet aspect-là des choses, sur le pardon que l'on accorde avant d'être pardonné par Dieu. Matthieu 5, verset 23, « Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Et puis Marc 11, 25, « Lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos fautes. » En fait, on n'est pas cohérent quand on demande pardon à Dieu alors que nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont manqué de respect. Et il y a une vraie symétrie, c'est-à-dire Dieu nous pardonne de la même manière que nous nous pardonnons. Et rappelons que nous sommes, nous, exactement dans la même situation de celui qui nous a offensés. C'est nous qui avons offensé Dieu. Oui, c'est pour ça que je parlais de symétrie. Et donc, Dieu nous demande de pardonner de la même façon que lui nous a pardonné. Pardonner à ceux qui nous manquent de respect, c'est montrer qu'on l'a compris, qu'on a intégré, qu'on a intériorisé que Dieu nous a fait grâce et qu'il nous a pardonné. Pardonner, c'est remettre une dette. Et la dette que je pourrais remettre à quelqu'un en lui pardonnant ne pourra jamais être aussi élevée que la dette que le Seigneur m'a remise. Et je termine sur ce verset avec un verset dans Éphésiens 4, verset 32. « Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Le dernier verset, le verset 13, « Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Alors, ce n'est pas facile de terminer sur ce verset-là, parce que rien que ce verset pourrait être le sujet d'une prédication tout entière, mais je voudrais simplement dire deux choses. C'est que si c'est Dieu qui permet que nous soyons soumis à la tentation, cela veut aussi dire que nous pouvons lui demander de nous en délivrer. On a le droit de lui dire stop, lui dire que l'on n'en peut plus. Et ce qui provoque chez nous la tentation ne disparaîtra pas forcément, Mais en tout cas, le Seigneur nous aidera à mettre de la distance. Il nous aidera à résister justement à la tentation. Il nous aidera à nous en éloigner. Et j'ai lu cette idée par un verset dans 1 Corinthiens 10, verset 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Et c'est un verset qui nous encourage à résister à la tentation. Non par nos propres forces, parce qu'on n'en serait pas capable tout simplement, mais en nous appuyant sur Dieu. Ayons en tête qu'une solution est possible. La deuxième chose que j'aimerais dire est que si c'est Dieu qui nous soumet à la tentation, Dieu est souverain, et il est souverain dans toutes choses, et Dieu est largement plus grand que la tentation. Il est bien plus grand qu'elle. Et il me semble que c'est une pensée là aussi encourageante lorsque l'on fait face à la tentation. Sachant que la tentation, eh bien, la tentation n'est pas le péché. C'est d'y succomber qui est le péché. Et ça signifie que lorsque l'on se sent faiblir face à la tentation, eh bien, prions le Seigneur, et c'est le sujet de ce verset, ne nous soumets pas à la tentation, pour qu'il nous donne la force de ne pas y succomber. Et c'est une prière qui mérite d'être dite chaque jour. Alors pour conclure, je termine avec la fin du verset 13. « Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. » Et une fois qu'on a dit ça, moi, on n'a pas grand-chose d'autre à dire en plus, au fait. Hein, quel que soit notre situation, quelles que soient les expériences que nous sommes en train de vivre, eh bien, souvenons-nous qu'à Dieu seul appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Et Jésus, dans ce modèle de prière, eh bien, souligne trois de nos besoins essentiels. Le besoin matériel avec la nourriture, le besoin d'être pardonné et le besoin de ne pas être soumis à la tentation. C'est les trois besoins. Et ces trois besoins, eh bien, sont encadrés par deux louanges. Vous voyez, ça commence, la prière commence et termine par la louange. Alors, cultivons notre relation, notre intimité avec le Seigneur et veillons justement à cet équilibre-là entre l'expression de nos besoins et puis notre louange aussi. Et de cultiver notre intimité avec le Seigneur, eh bien, ça nous permettra d'amasser des trésors dans le ciel, comme le verset 20 et 21 nous le promettent. Et parce que là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur. Et c'est un beau défi pour cette nouvelle année. Amen.